Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Cancer, osez en parler, le podcast de la Ligue contre le cancer 13. Aujourd'hui, je reçois Amina Djemaï, psychologue et psychothérapeute. Amina, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors Amina, dans un premier temps, déjà, j'ai très envie que vous nous parliez un peu de vous et de votre parcours et de ce qui vous a amené aujourd'hui à recevoir donc des personnes malades et des aidants ici à la Maison Bien-être de Marseille.
Alors, comme vous l'avez dit, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. J'exerce en cabinet libéral où je reçois du tout venant. Et ma pratique institutionnelle, elle est surtout autour des soins palliatifs et de la cancérologie. Elle a toujours été depuis le début. Je me suis retrouvée par hasard dans des stages autour des soins palliatifs et de la cancérologie. Ça m'a beaucoup plu. Et notamment, ce qui m'intéresse, c'est la place du corps dans ce genre de maladie. Je trouve que c'est compliqué de différencier l'esprit, le corps. Donc pour le coup, je mets un point d'honneur dans ma pratique à travailler avec le corps. Et donc du coup, la cancérologie, je trouve que c'est le domaine idéal pour pouvoir allier les deux.
Donc assez tôt finalement dans votre pratique, vous avez fait le choix de vous orienter vers,
très tôt.
Vers la cancérologie.
Très tôt. J'ai toujours été passionnée par la biologie. Donc à mon orientation, la question c'était biologie-psycho. Donc pour le coup, j'ai opté pour la psycho puisque dans la psycho, je pouvais allier les deux. Allier toutes ces questions existentielles du monde, pourquoi le monde est monde et de se comprendre. Et en effet, les maladies qui touchent le corps.
Donc en fait là, dans cet épisode, on va tenter de donner des clés. Mmh. Des solutions quand ce sera possible et surtout eh bien de donner envie aux personnes malades et aux aidants eh bien, d'oser franchir le pas. Pourquoi c'est si important, Amina ?
Déjà pour commencer, comme vous l'avez dit, c'est très important et il faut bien comprendre que ce n'est pas associé à de la folie. Ce qui est compliqué, c'est qu'on essaye d'inciter les personnes à consulter quand elles sont déjà dans des périodes très difficiles de leur vie. Donc là, par exemple, quand elles sont atteintes d'un cancer. Et donc, il faut non seulement passer le pas, mais en plus passer le pas du traumatisme qu'on est en train de vivre. Donc déjà, ce qu'il faudrait dire aux personnes malades ou non qui nous écoutent, c'est qu'on peut consulter même quand on a l'air d'aller bien. C'est déjà la première étape pour pouvoir ensuite pouvoir y aller quand on ne va pas bien. Le fait d'aller voir quelqu'un, ça aide à déjà se connaître. Et apprendre à se connaître, ce n'est pas forcément une maladie. Le but, c'est que souvent, on nous oriente des personnes quand elles sont déjà dans un état dépressif particulier, quand elles pleurent tous les jours, alors que c'est, j'ai pas envie de dire que c'est trop tard, c'est jamais trop tard, mais c'est déjà très compliqué pour la personne de franchir le pas quand elle est dans cet état-là. Donc le but, à mon sens, c'est d'aller voir quelqu'un déjà, parce que c'est une maladie qui peut renvoyer à notre propre mort. Elle est potentiellement mortelle, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de traitements, le temps médical va très vite, mais il y a déjà une problématique de la mort, je pense qu'on va l'évoquer, mais il y a déjà une problématique de la mort qui est apparente, et rien que pour ça, l'idéal, c'est d'aller consulter.
Donc là, en fait, on se dit qu'a priori, en tout cas, ici, à la Maison Bien-être, on va orienter les personnes malades vers vous au moment où l'annonce de la maladie est assez récente. Donc il y a déjà cette problématique-là qui va être à aborder. Comment on réagit quand la vie s'écroule quelque part à l'annonce de la maladie ?
Ici, on fait un premier rendez-vous systématique si les personnes n'ont pas de suivi à l'extérieur. Donc normalement, quand on fait l'inscription, on se renseigne pour savoir si la personne a déjà un suivi psychologique à l'extérieur. Si elle a un suivi psychologique à l'extérieur, elle ne me rencontre pas. Mais sinon, on fait déjà un premier entretien systématique, même si la personne ne souhaite pas forcément avoir un suivi. Le but, c'est de créer un lien, de créer un contact et de lui permettre de venir quand elle en a envie. C'est bien d'orienter les personnes, mais encore faut-il qu'elles le désirent. Et sans demande, on ne peut pas travailler.
Donc là, on parlait justement il y a 3 temps. On en parlait lorsque nous préparions cet entretien, il y a 3 temps dans la maladie. Et c'est important pour les gens, et principalement celles et ceux qui nous écoutent, de se situer dans ces temps-là. Mmh. Vous pouvez nous les distinguer ?
Tout à fait. Alors, comme on en parlait, comme vous le disiez, il va y avoir le premier temps de l'annonce. Donc, ça va être le temps le plus choquant, le plus bouleversant, puisque, alors, tantôt, on s'en doutait, puisque peut-être qu'on a trouvé une boule, peut-être qu'il y avait des symptômes qui nous laissaient penser qu'on allait avoir un cancer. Mais dans la majorité des personnes que je rencontre, ça tombe comme un coup de massue. On ne s'y attend pas, au détour d'un contrôle. Finalement, on a cette fameuse maladie. Donc ça va être un temps où la personne va être sonnée, où la personne ne va pas comprendre ce qui lui arrive, ni elle, ni ses proches, puisque du coup, les deux le vivent de manière aussi bouleversante. Et puis, c'est un temps aussi où tout va aller très, très vite. Donc, ce n'est peut-être pas le moment où on va les rencontrer. c'est le moment où elles seront à l'hôpital, où elles seront immédiatement prises en charge. Et donc, du coup, ça va aller vraiment vite. Ce que je peux conseiller aux personnes, c'est qu'à l'hôpital, il y a aussi des psychologues. En hôpital de jour, quand on commence les chimiothérapies, il y a des psychologues et il ne faut vraiment pas hésiter à se saisir, même si c'est pour une fois, pour un moment, de demander à rencontrer cette psychologue, que ce soit pour le patient ou pour le proche, pour pouvoir surmonter cet état, pour pouvoir contenir en tout cas cet état d'effondrement.
Quand on en a parlé, vous me disiez que pour certains, il y a une perte de repère finalement entre le moment de l'annonce, le traitement, la rémission, on le souhaite. On ne se situe pas et finalement, c'est après coup, une fois que la guerre est gagnée ou passée, qu'on se rend compte en fait de ce qu'on a vécu. Et ça, c'est normal de le ressentir.
Tout à fait. C'est important de se situer déjà pour se comprendre soi-même. Pour se dire, ben, ok, là, je suis à l'annonce de la maladie, je me prends un coup de massue, j'ai l'impression que le monde s'écroule, je suis peut-être dans un état émotionnel aigu, intense. Donc forcément, c'est ajusté à la réalité. Je ne vais pas bien, c'est normal de ne pas aller bien quand on nous annonce d'avoir un cancer. Pareil pour la chimio. Les personnes sont dans un état de fatigue tellement extrême qu'elles, c'est difficile de contrôler ses émotions, c'est difficile de se canaliser. On peut avoir envie de mourir, par exemple. Mais on ne va pas parler d'idées suicidaires. C'est quand même ajusté à la réalité par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et la troisième étape, pareil, c'est la période de l'après-cancer. Et on se rend compte, en tout cas, que le temps médical et le temps psychologique est très, très, très différent. Le temps médical qui va beaucoup, beaucoup trop vite pour le temps psychique. Heureusement qu'il va beaucoup trop vite pour pouvoir avoir des chances de guérison. Mais quand on arrive à la fin des traitements et qu'on vous dit « bon, ben, ok, c'est bon, vous êtes guéri. Par exemple, on vous a fait votre reconstruction. Ok, dans un mois, vous reprenez le boulot. » Sauf qu'on n'est pas du tout psychiquement en état de reprendre le boulot. On réalise à peine tout ce qu'on vient de traverser. On réalise à peine que notre corps a subi un tel traumatisme. On se réalise à peine pour certaines femmes, par exemple, qui se font une mastectomie, elles se retrouvent avec un autre sein ou alors pas de sein. Et tout ça, c'est un deuil, c'est du temps de digestion. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise, qu'on digère et qu'on travaille encore sur soi.
Alors, on le disait, vous recevez donc évidemment les personnes malades, les aidants, les proches. Parce qu'évidemment, au moment où l'annonce tombe, on en revient à cette fameuse annonce, mais c'est dramatique également pour les proches. Comment on entoure quelqu'un qui est malade? Comment se comporter? Il y en a plein qui se sentent désemparés. Mmh. Eux aussi peuvent venir vous voir, évidemment.
Tout à fait, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a une recette clé pour pouvoir être à côté d'une personne qui vient d'avoir cette annonce-là. Je pense que le tout, c'est de respecter la temporalité de chacun. Certaines personnes, après l'annonce, ne veulent pas en parler immédiatement. Donc, le tout, c'est de les respecter. Et vice-versa, certains proches ont du mal à en parler et le patient malade doit aussi le comprendre. Il faut aussi que la personne malade comprenne que le proche est tout aussi affecté, d'autant plus si la personne partage le quotidien va changer, la vie de couple va changer, la vie familiale va changer. C'est toute la dynamique qui est touchée. Ici, on rencontre beaucoup de personnes plutôt jeunes. Donc les dynamiques familiales, les dynamiques professionnelles, il y a vraiment tout un système qui s'écroule et qui change. Donc ce que je pourrais conseiller déjà aux personnes, c'est de se comprendre et de respecter le temps de chacun. L'idéal aussi pour l'aidant, quand il se sent trop débordé, ça serait de consulter. À l'hôpital, il pourra consulter également le psychologue du service. Ils peuvent aussi s'orienter vers des groupes de parole. Ils peuvent s'orienter ici. Donc le but, le tout, c'est d'avoir un espace, alors qu'il soit avec un psychologue ou avec un proche aussi, d'avoir un espace où il peut pouvoir déposer ce qu'il ressent.
L'idée, c'est de faire comprendre que si l'aidant, les proches, se sentent mieux eux-mêmes déjà, ou ont intégré certaines informations, cette temporalité, etc., ils seront vraiment un soutien important pour la personne malade.
Tout à fait.
Les personnes que vous recevez, j'imagine aussi, abordent la question de la sexualité, parce qu'évidemment, ça change aussi pour les hommes comme pour les femmes.
Alors, pour le coup, de par mon expérience, on aborde la question de la sexualité surtout en post-cancer. C'est vrai que quand on est en train de vivre les traitements, on l'aborde beaucoup moins puisqu'elle est quasi nulle, on va dire. On va surtout aborder des problématiques de l'ordre de la perte de la féminité, d'ablation si, par exemple, il y a une mastectomie. Pendant la maladie, on va plutôt aborder des thématiques à ce niveau-là. Post-cancer, on va aborder des problématiques liées à la sexualité, mais au même titre qu'on pourrait aborder des problématiques liées à la mort. Ce n'est pas systématique. Il y a des dynamiques de couple qui s'y font, d'autres dynamiques de couple qui ne s'y font pas. Et ça dépend vraiment de la relation et de l'histoire de la personne.
Donc là encore, comme on essaie de s'adresser à celles et ceux qui nous écoutent pour leur dire, voilà, c'est tout à fait normal d'avoir peut-être besoin d'en parler ou pas, mais c'est tout à fait normal.
C'est tout à fait normal pour les conjoints de se sentir peut-être délaissés, de se sentir peut-être en manque d'affection, de ne pas comprendre pourquoi. Beaucoup de patientes, je parle notamment des femmes, parce qu'on reçoit quand même beaucoup, pas mal de femmes, n'ont plus de désir, n'ont plus de libido, et tout ça, ça devrait être expliqué aussi d'un point de vue médical, parce que ça s'explique aussi d'un point de vue médical. Donc oui, il y a une baisse de la libido, il y a une baisse des investissements, il y a une baisse des investissements de la vie, tout simplement. Donc c'est tout à fait normal que ce soit une problématique récurrente, en tout cas dans le parcours.
Alors Amina, on l'a déjà beaucoup dit dans les épisodes précédents de ce podcast, mais les hommes ont plus de mal à franchir la porte de cette maison bien-être. Les hommes, a priori, ont également plus de mal à oser venir parler, c'est le cas.
Tout à fait. On reçoit quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes. Après, en cabinet, on voit aussi que dans les pratiques courantes, en cabinet aussi, il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Et dans toutes les activités de ma maison bien-être, il y a quand même plus de femmes que d'hommes. Je pense qu'on autorise plus facilement à la femme de pouvoir ressentir de la tristesse, de pouvoir ressentir de la vulnérabilité. Donc du coup, la femme a plus tendance à pouvoir en parler et exprimer ses émotions, alors qu'un homme doit être fort et ne doit pas en parler. Et il y a souvent cet amalgame qui se fait. Alors heureusement, ça se démocratise quand même. Je trouve qu'on en a quand même de plus en plus cette année. En tout cas, moi personnellement, j'en ai eu beaucoup plus que les années précédentes. Et je pense qu'il faut continuer sur ce chemin.
Oui, il faut vraiment les inciter, et malades comme aidants d'ailleurs.
Complètement.
Il faut oser venir dire « je me sens désemparée, j'ai peur ».
Complètement.
C'est finalement ces thématiques-là qui reviennent sans cesse. C'est la peur de la mort, en tout cas l'évocation de la mort qui plane au-dessus de cette maladie. Forcément, le couple, la famille, tout explose.
Tout à fait.
En tout cas, c'est un choc pour tout le monde.
Tout à fait. Donc messieurs, si vous vous sentez vulnérable, ce n'est pas grave.
Alors en plus, si vous voyez Amina, elle est tellement solaire et dans son sourire, tout passe. Et on a très envie de se confier et de tendre la main, c'est vrai, à vous inspirer la confiance. Est-ce qu'il y a une différence dans le traitement des patients, enfin dans le suivi, parce que là c'est plus un suivi des patients, que ce soit ici à la Maison Bien-être ou à l'hôpital, vous le ressentez ça?
Alors moi, en tant que professionnelle, je le ressens tout à fait. Alors, au-delà du fait que le lieu est magnifique, à ma maison bien-être, on est quand même en dehors de l'hôpital. Donc déjà, pas de blouse blanche, pas de machine, pas de personnes qui vont hyper vite parce qu'il faut vite mettre des traitements. Il n'y a pas toute cette agitation. Donc moi, déjà en tant que professionnelle, quand je reçois, l'ambiance est beaucoup plus calme et beaucoup plus intime. Un hôpital de jour, il faut savoir que parfois ce sont des box, donc on prend en charge la personne à côté d'une autre personne. Donc c'est quand même assez compliqué. On joue pas les mêmes choses aussi dans la relation. La personne qui vient en chimiothérapie, elle est plus angoissée, alors quand elle vient ici, voilà, on fait quand même un entretien autour d'un thé, d'un café, c'est quand même beaucoup plus agréable, c'est quand même beaucoup plus propice pour pouvoir évoquer des problématiques telles que la mort, par exemple.
La parole se libère sans tabou ici et plus facilement peut-être ici qu'à l'hôpital?
Je pense que ça se libère plus facilement, loin de l'agitation en tout cas, et loin de ce qui nous renvoie à la maladie. Puisque finalement, c'est ce qui ressort quand on vient ici, ben on n'a pas l'impression d'être malade, quoi. Pas de médecin, il y a pas de bruit, il y a pas de, donc je trouve que c'est, en tout cas dans ma pratique à moi, je trouve que c'est un luxe de pouvoir recevoir dans ce genre d'endroit, en intimité, sans rendre compte à personne. C'est vraiment la personne qui vient, c'est une rencontre, c'est elle et moi, et ça reste dans cette pièce et c'est tout, quoi.
Alors, vous venez de l'évoquer à nouveau, bah évidemment, la question de la mort. Comment vous protégez, vous, parce que ça peut être un excellent conseil pour les personnes malades et pour les personnes qui entourent. Comment on met cette idée-là qui plane forcément plus à ce moment-là? Comment on la met à bonne distance?
Je ne sais pas si on peut parler de distance, puisque trop la mettre à distance serait un risque aussi. Serait de se dire, mais finalement, ça n'existe pas et on n'en parle pas. Et le jour où ça vient, ben, notamment quand on a ce genre de maladie, ça nous explose à la figure et on ne sait pas comment la gérer. Je pense que déjà, l'idée, c'est d'avoir conscience qu'elle existe. Et finalement, on en parlait tout à l'heure, pas tout le monde a conscience que la mort existe. Et d'en parler. En fait, tout simplement, d'en parler à des amis, d'en parler à des proches et peut-être lire des livres à ce propos, de se questionner, de se demander ben, pourquoi je ressens ça et de ne pas en faire un tabou. Je pense que plus on essaye de faire en sorte qu'elle n'existe pas, plus on lutte et plus c'est source de souffrance.
Est-ce que vous conseillez à ces personnes de mettre leur vie en ordre?
Je conseillerais de mettre les choses en ordre, en effet, mais peut-être pas dans la dimension matérielle. peut-être que déjà la première étape, c'est de remettre en ordre des choses plutôt intérieures, plutôt de l'ordre de son identité, de qui je suis, pourquoi j'en suis là, quel est le sens que je peux donner à ma maladie et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être mieux. Alors certaines personnes, dont la personnalité est déjà comme ça, vont tout mettre en ordre, vont faire des papiers, vont... mais ça dépend vraiment de la personnalité de la personne. Par contre, ce qui est majoritaire, c'est cette question vraiment existentielle de se dire, ok, ben, là je vis un traumatisme, je vis une secousse tellement extrême que je me redemande qui je suis. Je me suis oubliée à tel moment, donc aujourd'hui je pense à moi, je prends soin de moi, qui je suis. Souvent dans le discours on entend, ben, j'étais comme ça et puis c'est terminé, je ne suis plus du tout comme ça. Il y a vraiment un avant-après. Et je pense que vraiment, si on doit mettre des choses en ordre, c'est plutôt de l'ordre de l'intérieur.
Alors pour finir, Amina, il y a quelque chose qui est assez important et que je voudrais vraiment aborder avec vous, c'est que ces personnes qui viennent vous voir donc à ce moment-là de leur vie, ben finalement, travaillent en profondeur sur des choses du passé, sur des choses bien plus intérieures. En fait, elles viennent vous voir parce qu'elles sont malades. Ça, c'est le prétexte. Mais finalement, il se passe des choses bouleversantes parce qu'elles vont beaucoup plus loin que prévu.
Ce qui est important de savoir, c'est que ça se passe comme ça dans tout. Si vous allez consulter un psychologue en cabinet, vous avez une demande précise, en général, pour vous donner une bonne excuse d'aller consulter, justement. Mais évidemment, il ressort des choses dont on ne soupçonnerait peut-être pas. Il faut bien avoir en tête qu'une personne qui a une maladie n'est pas la maladie. Une personne qui vient ici, ben, oui, ok, elle a un cancer, je veux bien, mais elle n'est pas que ça, elle est tellement d'autres choses que forcément, on va chercher du sens là où on peut en trouver. Et donc, dans des événements de vie qu'elles ont pu vivre. Et puis, en général, le cancer, ce n'est pas le seul traumatisme qu'elles ont vécu dans leur vie. Donc forcément, on revient sur les événements qu'elles ont pu traverser.
Eh bien, merci beaucoup, Amina. J'ai envie de reprendre votre phrase pour terminer parce qu'elle est très belle. La personne qui vient ici n'est pas que la maladie.
Tout à fait.
Et ça, c'est vraiment essentiel de se dire qu'il ne faut jamais réduire une personne
à
ça. Et dans sa globalité, c'est comme ça qu'on peut l'aider, c'est comme ça qu'on peut soutenir.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci, Caroline.
Bonjour, c'est Renaud Muselier, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à chacun d'entre vous d'avoir écouté ce podcast réalisé par la Ligue régionale dans le cadre du plan cancer de la région Sud. Merci à vous.